Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média en ce jour 50 du confinement. 50 pour les complotistes du chiffre. Je signale que nous sommes le 05-05-2020, le 5 mai 2020. Au menu de l'émission Média et Culture au sens large, avec des conseils BD et des conseils jeux vidéo, évidemment le journal des médias de Cyril Lacarrière et le journal de la culture d'Hélène Manarino. Nous sommes ensemble, vous le savez, pour une heure et demie en direct et vous pourrez podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, nous serons avec une star, Guillaume Canet, qui parraine une nouvelle chaîne, Cultivons-nous.tv, une sorte de Netflix du monde agricole, lancée mercredi par le réalisateur du film Au nom de la terre, film qui a fait près de 2 millions d'entrées avec Guillaume Canet, évidemment. Nos invités ensuite, Frédéric Lopez et Michael Jérémias pour Comme les autres, ce soir sur France 2, une émission au titre mensonger, car justement, elle n'est pas comme les autres. Et c'est tant mieux. Enfin, le chanteur, que dis-je, plus qu'un chanteur, un phénomène, Bilal Hassani, qui après avoir représenté la France à l'Eurovision avec sa perruque blonde platine, sort un nouveau single conçu en plein confinement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ?
Ce matin, nous parlons de la télévision qui ne cesse de rassembler de plus en plus de Français, d'un documentaire poignant ce soir sur France 2, de Cyril Hanouna qui prolonge son bail sur C8 et relance une ancienne émission de son ami Arthur, et du Tiger King qui va continuer de rugir.
Je sais pas du tout ce que c'est le Tiger King, ça, j'ai vite envie de savoir. On va commencer comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
France 2 est en tête des audiences hier soir, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ce succès de la chaîne le doit à sa série Meurtre au paradis qui a réuni plus de 4 100 000 téléspectateurs. Les trois frères doivent se contenter de la deuxième place du podium. Le film des Inconnus sur TF1 a été regardé par près de 3 700 000 Français.
Sans patate
enfin, quelle production phénoménale.
Oh là là, c'est
enfin,
dingue.
Encore un bon score pour Secret d'Histoire. Près de 2,5 millions de téléspectateurs ont regardé ce nouveau numéro de l'émission de Stéphane Bern consacré à Thérèse, la petite sainte de Lisieux.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias en restant sur le volet audience. Les audiences du mois d'avril qui sont tombées hier et les scores sont vraiment très spectaculaires.
Les Français ont passé 4h40 par jour devant leur écran de télévision. C'est pile une heure de plus qu'en avril 2019. Et ça continue de progresser par rapport au début du confinement, puisque la durée d'écoute a gagné 11 minutes entre mars et avril. Toutes les catégories de sexe et d'âge sont concernées par cette hausse. Elle est la plus spectaculaire pour les personnes de 50 ans et plus qui ont regardé la télévision 1h27 de plus que l'an dernier à la même époque. Et pour les CSP+, qui ont passé 1h28 de plus devant leur écran. Que restera-t-il de ces chiffres records après le 11 mai? On en parlera, évidemment, début juin.
Un documentaire ce soir sur France 2 consacré aux parents endeuillés par la perte d'un enfant.
C'est un sujet lourd et difficile que s'attaque l'émission Infrarouge ce soir. Le film suit les témoignages de 4 parents, 2 mères et un couple, chacun essayant de trouver une manière de surmonter le drame qu'ils ont vécu. Des histoires réellement bouleversantes, mais racontées et filmées sans pathos, avec une certaine pudeur, mais au plus près de ces vies qui ont basculé. Nous avons joint Caroline Comte, c'est la réalisatrice du film que diffuse France 2. Je lui ai demandé si en rencontrant ces familles, elle avait trouvé une sorte de fil conducteur entre elles, si elle partageait quelque chose dans leur reconstruction.
Je dirais que c'est le besoin d'isolement. En fait, ses parents sont les mêmes, mais ils ont beaucoup changé. Et il y a vraiment ce besoin de s'arrêter dans cette vie qui continue pour comprendre ce qui se passe dans leur corps, ce qui leur arrive, parce qu'un jour ça va et un jour ça va pas. Ça fait comme un yo-yo. Et puis il y a des émotions contraires qui peuvent coexister. Un bonheur immense, des fous rires, des sensations de bien-être, et la seconde d'après, une immense tristesse. Et puis, il y a aussi le temps qui a changé pour eux. La temporalité est très différente. Parce qu'en fait, même si ça fait 10 ans que leur enfant est mort, il y a des matins, ils se réveillent et c'est comme si c'était hier.
Ce qu'on apprend en regardant le film, c'est qu'en plus de la douleur de perdre leur enfant, ses parents doivent aussi subir une forme d'isolement, comme si personne ne voulait être confronté à ce drame, même de manière indirecte. J'ai demandé à la réalisatrice comment elle explique ce tabou de la société.
Alors c'est un tout petit peu moins vrai en ce moment, mais sinon on nous parle tout le temps d'immortalité et de santé, jeunesse, bonheur. Alors, quand on se retrouve devant un parent endeuillé, eh ben, forcément, on se protège, parce qu'on ne veut pas voir cette réalité-là. Et c'est vrai que c'est difficile de supporter devant soi le témoin que, oui, les enfants peuvent mourir. Parce que c'est contre nature, c'est inconcevable, et pourtant, ça arrive tous les jours. Et donc, c'est pas évident d'être un proche à ce moment-là, mais c'est pas contagieux, la mort d'un enfant. Il faudrait qu'on arrête de changer de trottoir, en fait. Et puis, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Si on ne sait pas quoi dire, on peut juste rester à côté. Faut juste pas les laisser tomber.
Dites-leur que je suis vivant, un film réalisé par Caroline Comte et Thomas Robin. C'est ce soir dans Infrarouge sur France 2 à 23h.
Cyril Hanouna et C8, c'est du sérieux.
C'est d'une simple phrase en fin de papier que Le Parisien nous apprend la nouvelle. C8 a reconduit Cyril Hanouna pour 3 saisons supplémentaires. L'animateur va donc poursuivre l'aventure qu'il avait commencé il y a 8 ans sur une chaîne qui s'appelait à l'époque D8. C'était bien sûr avant qu'Hanouna se fasse connaître du grand public. Et si depuis le confinement, les audiences de l'Access Primetime de C8 ont fortement baissé, la chaîne n'entend pas se passer de son baba préféré. On se souvient qu'en 2015, C8 avait déroulé le tapis rouge à Cyril Hanouna en lui offrant un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans pour éviter qu'il ne file vers la concurrence. Le bail va donc se prolonger sans qu'on sache à ce stade si un nouveau contrat du même acabit a été négocié entre Cyril Hanouna et Vincent Bolloré, le grand patron de Vivendi et donc de C8.
250 millions d'euros garantis pour sa société de production, pas pour son compte en banque personnelle.
Absolument, absolument.
Toujours à propos de C8, Cyril Hanouna justement va relancer une ancienne émission.
Apprendre ou à laisser, le jeu présenté par Arthur sur TF1 au cours des années 2000 va faire son retour à partir du 18 mai sur C8 en lieu et place de Ce soir chez Baba, qui est remplacé Touche pas à mon poste depuis le début de la crise sanitaire. Et c'est donc Cyril Hanouna qui va endosser le rôle du présentateur après Arthur donc, et Julien Courbet qui avait lui aussi présenté le jeu sur D8 à l'époque. Retour donc en studio pour l'animateur qui s'était installé chez lui depuis la mi-mars. Il sera entouré de 24 candidats tout en respectant les consignes de distanciation physique.
Et ceux qui ne reviendront pas en revanche, ce sont les feuilletons de France Télévisions.
C'est à qui scandalise qu'il annonce dans Le Parisien. Plus belle la vie et un si grand soleil ne reviendront pas à l'antenne avant septembre. Le patron des programmes de France Télé explique qu'il a fallu adapter les conditions de tournage pour respecter les conditions sanitaires. Il faudra donc du temps avant que toute la machine de production se remettent en route et que France 2 et France 3 disposent de suffisamment d'épisodes pour reprendre leur diffusion quotidienne.
Et pour terminer ce journal, Tiger King, le phénomène continue.
Je vous ai parlé il y a quelque temps de Joe Exotic et de ses compères.
Ah oui.
La série documentaire qui fait un tabac sur Netflix. Eh bien, quand le filon est bon, il faut le creuser. C'est ce que s'est dit la chaîne CBS, la chaîne américaine CBS, qui va lancer la production d'une mini-série de 8 épisodes, une fiction cette fois, avec une tête d'affiche hollywoodienne. C'est Nicolas Cage qui va se décolorer les cheveux et se faire une coupe mulet pour interpréter le rôle de ce gardien de zoo totalement hors norme et qui croupit actuellement en prison pour tentative de meurtre. Si vous n'avez pas encore vu Tiger King sur Netflix, je ne peux que vous recommander de vous plonger dans ce monde totalement dingo où amateurs de tigres, de lions et de guépards se battent entre eux et contre des pseudo-défenseurs de la cause animale. Je vous le disais, Tiger King, c'est un phénomène. Aux États-Unis, 10 jours après sa mise en ligne, plus de 34 millions de personnes avaient déjà regardé la série.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue avec dans un instant notre info média du jour. On va parler d'une toute nouvelle chaîne, Cultivons-nous.tv, une sorte de Netflix de l'agriculture lancée par le réalisateur du film Au nom de la terre, Édouard Bergeon. Pour en parler, nous serons avec Antoine Robin, le directeur des chaînes du groupe Alchimie. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, le parrain de cette chaîne, l'acteur Guillaume Canet, juste après ça.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
C'est une sorte de Netflix du monde agricole qui a vu le jour mercredi dernier. Son nom, Cultivons-nous.tv, une chaîne thématique en ligne consacrée à l'agriculture, au bien manger et à la transition écologique. Je voulais monter le son de mon casque, je vous raconte tout. Chaîne lancée par Édouard Bergeon, réalisateur du film Au nom de la terre. Succès au cinéma avec près de 2 millions d'entrées l'année dernière. Chaîne parrainée par Guillaume Canet qui incarnait l'agriculteur dans le film. Et la chaîne créée en partenariat avec la plateforme numérique Alchimie qui revendique une centaine de chaînes distribuées chez les géants Google, Amazon, Apple TV ou encore Bouygues ou Orange. Pour en parler, nous recevons Guillaume Canet. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes le parrain de ce nouveau bébé. Antoine Robin, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous avez un bon son, directeur des chaînes d'Alchimie. Mmh. D'abord, question à tous les deux. Où allez-vous?
Où êtes-vous? Il va pas bien, mon son, moi.
Il est bien, mais c'est un son téléphonique et l'autre, c'est un son digital. Où est-ce que vous êtes, Guillaume Canet? Vous êtes au Cap Ferret ou est-ce que vous êtes confiné?
Je suis où je veux, voilà.
Ah, vous voulez pas dire où vous êtes.
Je suis confiné.
Voilà, vous voulez
je
avoir.
Je suis confiné.
Voilà, vous voulez avoir la paix avec.
Et je suis confiné comme tout le monde. Voilà.
Voilà. Voilà,
exactement.
Vous voulez avoir la
je
paix.
Je suis confiné.
Si je peux dire ma phrase en entier, vous voulez avoir la paix avec la presse people et vous avez bien raison. Antoine Robin, comment se passe le confinement? Où êtes-vous confiné?
Confiné à Paris,
d'accord.
9e arrondissement et 13 studios.
Non,
voilà,
on ne veut pas
confiner.
Non, 9e arrondissement, c'était presque en trop. Bon, allez, on y va. Comment est né
mais
le projet?
Si vous regardez mes lives, vous avez une idée d'où je suis quand même.
Bon, comment est né le projet, Guillaume Canet? Je commence par vous.
Alors, écoutez, en fait, ça, depuis le film, on a essayé avec Edouard de continuer notre combat, si je puis dire, en tout cas, de la communication et d'essayer d'avancer dans cette communication et dans ce soutien aussi aux agriculteurs. Notamment en aidant cette association Solidarité Paysan et en mettant plein de choses en place pour que l'association puisse exister de manière encore plus facile en fait pour eux et notamment d'avoir qu'elle soit reconnue comme intérêt public. Mmh. Ça avance bien et en fait au salon de l'agriculture, le dernier salon de l'agriculture cette année. On a été avec Edouard, on voulait aller à la rencontre encore des agriculteurs après la sortie du film pour rencontrer les gens. Et puis j'ai fait la rencontre à ce moment-là d'Antoine Robin par l'intermédiaire d'Edouard. Mmh. Et c'est là qu'ils m'ont parlé de cette idée de pouvoir, si on créait une chaîne de télé destinée, dédiée aux agriculteurs, mais aussi effectivement au bien manger, à la pédagogie, essayer aussi de donner aussi aux enfants, aux jeunes, aux plus jeunes, l'envie. De planter, de comprendre en fait comment est fait un yaourt, de comprendre en fait comment travaillent les agriculteurs. C'est vrai, dans cette période d'agribashing importante, moi vous connaissez ma position, c'est vrai que j'ai une position assez vertueuse au niveau de l'agriculture. Le but, ce n'est absolument pas d'opposer les agriculteurs, bien au contraire. D'ailleurs, on avait fait un reportage avec Edouard là-dessus, sur un agriculteur issu du traditionnel et un agriculteur de bio. Ouais. Et c'était très intéressant, l'échange qu'il y avait entre les deux. Bref, on a voulu faire une chaîne et voilà, ils m'ont parlé de ce projet. Et je leur ai dit qu'immédiatement, moi, je voulais absolument, évidemment, participer de manière totalement bénévole et être parrain de cette chaîne et communiquer, aider à la faire connaître et proposer aussi... des reportages, proposer des documentaires.
On va parler du contenu, je rappelle juste l'histoire du nom de la Terre, ça part d'une histoire vraie, une saga familiale du réalisateur.
Vous avez dit, Philippe, à l'époque, on a fait notre première interview grâce à vous.
Je me souviens très très bien.
Salon de l'agriculture.
J'étais au salon de l'agriculture pour le 18-20, je raconte, et on me dit, il y a Guillaume Canet qui veut passer dans ton émission. J'ai dit, mais évidemment, come on, voilà. Et je me souviens très très bien, et vous étiez tous les deux, avec Bergeon également.
Et vous avez eu la gentillesse de nous recevoir, effectivement, et le film n'était même pas sorti encore.
C'était bien normal, et depuis, le film a fait 2 millions d'entrées. Antoine Robin, avant de s'intéresser au contenu, on va tout de suite évacuer la question qui fâche. Combien ça coûte un abonnement à cultivons-nous.tv?
Ça coûte 4,90
ouais.
4,90 euros. Et puis après, il y a une offre à 6 mois à 19,90 euros. Il faut savoir qu'un euro, pour chaque abonnement, un euro est reversé à l'association Solidarité Paysan. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Edouard qui est actuellement sur son tracteur dans des villes en train de travailler parce que évidemment, c'est une chaîne qui est portée par Guillaume et par Edouard depuis des années et qui a les deux pieds dans la terre et c'est le cas ce matin.
Alors, je précise pour tous ceux qui veulent aller voir la chaîne, il y a une partie en accès gratuit. La rubrique Ma vie de paysan 2.0. Il y a des formats courts qui sont présentés par des agriculteurs qui se filment sur leur exploitation. On va entendre Lucie Gantier. Elle est éleveuse de poules pondeuses en plein air en Vendée. On la voit en train de trier des centaines d'œufs.
Je voulais quand même vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de pénurie d'œufs. Vous ne trouvez pas d'œufs en magasin pour certains, pour la simple raison que lorsque le confinement a été annoncé, il y a eu des achats, on va dire, peu raisonnables. Et maintenant, dès lors que les personnes qui cherchent des œufs depuis quelques jours parviennent à en trouver, ils vont aussi avoir des achats peu raisonnables. Ne vous inquiétez pas, la France est le premier pays producteur d'œufs en Europe. Il n'y a pas de souci, on n'a pas arrêté de produire.
Guillaume Canet, c'est ça, le but, c'est pédagogique, c'est d'expliquer les problématiques du moment aux urbains, partir de l'exploitation pour expliquer ce qui se passe dans les supermarchés. C'est un petit peu ça l'idée.
Oui, tout à fait. C'est une chaîne qui permet de donner la parole en fait, aux agriculteurs, aux agricultrices, mais aussi d'apprendre des choses aux consommateurs. Les consommateurs, comme vous le savez, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, doivent devenir consommateurs, en fait, doivent vraiment devenir des acteurs et qu'ils vont choisir de mettre dans leur assiette va énormément influer sur la vie et la pérennité des exploitations agricoles en France. Parce que, comme vous le savez, on exporte beaucoup de produits à l'étranger, on importe beaucoup de merde, et que si nous, on achète ces merdes pour les mettre dans notre assiette, bah, les agriculteurs, ils ne s'en sortent plus au bout de la chaîne.
On est bien d'accord.
Il y a des initiatives formidables, comme C'est qui le patron, qui aide justement à ce que les agriculteurs au bout de la chaîne s'en sortent.
Ah oui, C'est qui le patron, c'est le lait éco-responsable, c'est ça ?
Le lait, tous les produits de première nécessité, le beurre, les œufs et tout ça, où en fait on a ce modèle de Nicolas Chaban en fait qui a lancé ce truc, qui a fait un travail formidable et qui permet en fait d'avoir au bout de la chaîne en fait on paye des fois 40 centimes de plus un produit par an, hein, je parle. Et du coup, bah, au bout de la chaîne, le producteur s'en sort. Mmh. C'est-à-dire que ça devient, par exemple, pour le lait, l'exemple concret, c'est que si on paye 4 euros par an en plus, eh ben, à l'autre bout de la chaîne, le producteur de lait s'en sort au niveau de sa production. 4 euros par an.
Ouais.
Donc voilà, cette chaîne, elle permet ça aussi. Elle permet que les consommateurs apprennent des choses et puissent acheter de manière peut-être des fois plus intelligente, permettent aussi que des grandes surfaces comme Intermarché en ce moment, ce qui est le cas avec Thierry Cotillard par exemple, le patron d'Intermarché, qui a mis en place plein de choses pour que justement les consommateurs aillent dans le bon sens au niveau de l'achat. Et donc voilà, c'est ces petits exemples. Je pense que cette chaîne est importante pour ça,
ouais.
Pour que les gens
J'aurais parlé
de l'agriculture à sa juste place, quoi.
Je veux parler du contenu, Guillaume Canet. Vous êtes avec Édouard Bergeon, les patrons de la chaîne. Pour déterminer la ligne édito, pour choisir les contenus, parmi les 40 000 heures du catalogue Alchimie, ça sera quoi
Ce qui justifie, excusez-moi de beaucoup vous interrompre, Philippe, mais ce qui justifie aussi l'abonnement.
Évidemment.
C'est-à-dire que l'idée aurait été formidable de faire juste un truc gratuit et d'aider l'association. C'est tous ces documentaires qu'on a vraiment de grande qualité.
Alors,
parce que
justement,
des documentaires aussi sur l'environnement, sur plein de trucs, y a des droits, il faut payer ces documentaires aussi.
C'est ce que j'allais vous faire raconter. Qu'est-ce qu'on verra ? Ce sera quoi ? C'est quoi les rubriques de cultivons-nous.tv ?
Alors, la chaîne, elle a été divisée en plusieurs catégories. Alors, il y a bien dans ceux qui nous nourrissent, évidemment. Il y a ce qu'on boit, ce qu'on mange. Paysans du monde, dans quel monde vit-on ? Ça, c'est une catégorie un peu plus globale sur l'état du monde lié à la ruralité. Et puis, dans une semaine, puisque c'est une demande de nos abonnés, qui sont déjà plutôt très nombreux, on va lancer une nouvelle catégorie qui va s'appeler Jeune Pousse, qui va cette fois faire la pédagogie du monde agricole auprès des tout-petits. Moi, ce que je voudrais rajouter, Philippe, c'est que ce qui m'avait frappé à l'époque quand j'avais rencontré Édouard et Guillaume, c'est qu'il m'avait dit que le film avait fait plus de 2 millions d'entrées, mais seulement à peine plus de 100 000 à Paris.
Ah oui.
À Paris. Et donc là, on s'est dit, il y a quand même un petit problème, à mon avis, entre effectivement le monde agricole et le monde urbain, en tout cas Paris et certaines grandes métropoles. Et peut-être que c'est de là que vient parfois ces petits malentendus, ces petits quiproquos sur finalement un monde, un milieu qui est extrêmement technique, hein, qui
ouais.
Applique à la fois l'humain, à la fois le climat, à la fois l'écologie, à la fois aussi l'économie au niveau mondial, avec les cours mondiaux du blé qui ne cessent de fluctuer. Et du coup, effectivement, ça crée parfois des débats un peu hystériques, un peu dogmatiques. Et nous, on a dit, on va mettre le pied sur le frein.
Ouais.
On va se poser les bonnes questions. Et on va poser sur différentes catégories déjà des thématiques qui nous permettent, par exemple, de réfléchir à l'omniprésence de la culture de la tomate avec un doc qui s'appelle l'Empire de l'or rouge, qui est hyper intéressant. On va aller faire le tour des petits exploitants à travers la France, à travers une série qui s'appelle l'explorateur du goût.
Ouais.
Voilà, par exemple, on va au Mont-Saint-Michel, voir des ostréiculteurs, par exemple. On va aussi voir ce qui se passe aussi dans les villes avec une série qui s'appelle Nature Urbaine, où là les urbains exportent un petit peu de la campagne dans des jardins, des jardinets et ainsi de suite. Et donc c'est toutes ces thématiques-là qu'on va essayer de poser tranquillement pour déjà, je crois que c'est Camus hein, qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
Ouais.
Bah, c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Nous, on veut essayer de rendre les gens curieux, intelligents, sans hystérie ni dogmatisme.
C'est
très important pour nous.
On marque une courte pause, Antoine Robin, Guillaume Canet. On se retrouve juste après ça pour parler de votre chaîne aux finalités absolument formidables en direct sur Europe 1.
Culture Média. Philippe Vandel.
En direct avec Guillaume Canet et Antoine Robin, ils travaillent à la chaîne Cultivons-nous.tv, une nouvelle chaîne qu'on va schématiser en disant c'est une sorte de Netflix du monde agricole, mais évidemment c'est pas ça, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Je voudrais qu'on entende des sons pour qu'on se rende compte à quoi ça ressemble. Le but, c'est d'aborder les problématiques des agriculteurs. On peut d'ailleurs voir le documentaire d'Edouard Bergeon, Les Fils de la Terre, qui a inspiré le film Au nom de la Terre. On peut également voir La mort est dans le pré d'Éric Guéret, qui évoque le sort de centaines d'agriculteurs victimes de produits phytosanitaires que l'on croyait anodins. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du divertissement sur cultivons-nous.tv. Exemple, avec cette série documentaire Les conquérants, du grill extrait.
Le barbecue, c'est une passion. Un mode de vie, mais aussi ma business. Je suis Max, barbecue guru. Je vis ma vie avec mon entreprise 100% grill. Mon but, c'est de conquérir le monde un barbecue à la fois avec la meilleure équipe. Mon frère JP, ma femme Ariane et notre ami Jérémy. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Nous sommes les conquérants du grill.
Antoine Robin, c'est quoi ces conquérants du grill? On sent qu'il y a un petit accent québécois. Comment vous avez déniché ce programme qui a l'air complètement dingue?
Ah ben, en fait, chez Alchimie, on a des têtes chercheuses qui vont chercher partout à travers le monde des contenus sur nos différentes chaînes thématiques, là, en l'occurrence l'agriculture. Donc effectivement, on a été déniché ce programme parce que l'idée, c'est d'être pédagogique, mais surtout d'être divertissant. Hein. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts sur Cultivons-nous. Et donc, on a été chercher ce programme qui effectivement fait un peu le tour du Québec, des fans du barbecue. Et on s'est dit que voilà, ça peut paraître parfois un petit peu loin de la thématique, mais finalement pas tant que ça. Il y a un autre programme que j'adore, qui s'appelle Arriver en campagne, qui d'ailleurs je pense qu'il mériterait d'être bientôt adapté en France.
Arriver en campagne.
C'est une famille. Arriver en campagne.
Allez-y,
c'est une
ouais.
famille de cinq urbains.
Ouais.
Une famille qui va vivre pendant quelques jours dans une grande exploitation. Et tout ça se termine, c'est ce qui est hyper important pour nous, parce que je rappelle que le claim de la chaîne, c'est du champ à l'assiette, tout se termine autour de la table.
Ouais.
Nous sommes tournés exclusivement, bien sûr sur l'être humain, mais aussi énormément sur le produit. Et c'est un programme de télé-réalité vraiment bien foutu, qui reprend les codes classiques. Ouais. Mais on apprend plein de choses dans un univers qui est un peu différent, parce qu'on peut aussi apprendre, évidemment, de l'étranger, d'autres modes d'agriculture. Dans d'autres types d'exploitation, c'est hyper intéressant.
Vous savez quoi, Antoine Robin? Arrivé en campagne, extrait.
Bienvenue sur la ferme des productions maraîchères Mayotte à Saint-Alexis-de-Montcalm, dans Lanaudière. Aujourd'hui, une ferme qui produit 5 millions de brocolis par année. Une famille agricole bien organisée. Une famille urbaine qui n'a pas vraiment le pouce vert.
Fait que c'est ça que t'appelles un champ? Assez grand.
C'est ça. Ben oui, wow. Ça c'est du brocoli. Regarde, un beau champ.
Il était vraiment temps qu'il arrive en campagne.
C'est important de passer ces extraits, Guillaume Canet, parce qu'il faut le dire, cette chaîne n'est pas une chaîne anxiogène.
Non, et c'est pas tout à fait. Et c'est pas une chaîne où les gens parlent que avec l'accent québécois. On est bien d'accord aussi. Hein.
Évidemment.
Mais non, oui, c'est évidemment, bien sûr, c'est important de montrer l'agriculture telle qu'elle est faite de partout, mais aussi, effectivement, c'est ludique. Et moi, je reviens juste sur un truc très important aussi de ce qu'a dit tout à l'heure Antoine sur. Sur les jeunes pousses, là, la rubrique qui va arriver bientôt, la playlist jeunes pousses, qui est très pédagogique, donc du coup pour les enfants, et que je trouve vraiment, vraiment formidable. L'idée, c'est aussi, je rajoute un truc dont on avait parlé avec Edouard, et je sais qu'on va le mettre en place, d'avoir peut-être un plateau une fois par mois. Antoine, tu me confirmes. L'idée, c'était de pouvoir avoir un plateau avec des invités, pouvoir échanger et d'avoir... par exemple un dîner avec un grand chef qui vienne par exemple faire la cuisine avec voilà, ça c'est des idées qui sont pas encore totalement développées mais en tout cas des envies et de réunir autour d'une table
vachement bien.
Ça va s'appeler Cher Robert, qui est le parce que Edouard Bergeon, en plus d'être un formidable documentariste, réalisateur, exploitant agricole, puisqu'il l'est actuellement, il a en plus deux restos dans Paris et donc on va lancer deux programmes avec lui, effectivement Cher Robert, ou qui va être un peu le 93 faubourg de Cultivons-nous.
Voilà, on mettra autour de la table, on va en parler totalement donc.
Bon. Ah bah si vas-y.
Et bon, attendez, j'ai plein de questions. Pas du tout, il nous reste une minute et j'ai plein de questions, notamment cette question pour vous, Guillaume Canet. Vos prochains projets, je vous en parle parce qu'on a appris hier soir dans le film français que vos producteurs ont décidé de repousser le tournage du film Astérix et Obélix, l'Empire du milieu, au 8 mars 2021. Vous étiez en pleine préparation du tournage au moment du confinement. C'est ça, c'est vous le réalisateur.
Oui, je devais réaliser le film. Bah oui, on avait travaillé depuis trois mois même en prépa et on est tous au chômage.
Oui.
Voilà, donc voilà.
Vous donc, confirmez la
le
date?
Film se tendra, le film se tendra début mars l'année prochaine.
Ouais.
Si tout va bien. Mais de toute façon, je vais pas me plaindre. Hein, je suis effectivement, comme vous voulez le savoir, je suis effectivement dans une belle région où je suis confiné, où j'ai un jardin, ce qui est quand même, je suis très privilégié. Et donc, voilà, je suis simplement au chômage, comme j'imagine beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que je suis moins en difficulté que certaines personnes aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon mal en patience et espérer que ce virus nous permette de reprendre notre vie d'avant, normalement, et qu'on puisse faire des bisous, des câlins, des hugs, et qu'on puisse revivre normalement et puis continuer à bien manger. Et je pense, pour mot de la fin peut-être aussi,
oui, le mot de la fin,
on doit s'arrêter, c'est que je pense que c'est quelque part dommage qu'on en soit arrivé là et qu'on ait dû subir toutes ces pertes, mais que quelque part c'est peut-être aussi un message aussi de la nature, de reprendre les choses correctement. En fait.
Merci beaucoup Guillaume Canet, merci Antoine Robin. Je rappelle, cultivons-nous.tv, c'est déjà disponible, 4,99€ par mois, dont 1€ reversé pour soutenir les agriculteurs. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe Culture Média, qui continue après le rappel des titres de 10h. On sera avec l'animateur Frédéric Lopez et le quadruple médaillé paralympique Mickaël Jérémias pour une émission pas comme les autres qui s'appelle Comme les autres, et puis un phénomène, le chanteur Bilal Hassani. À tout de suite. Europe 1, 10h. Le flash Marguerite Lefebvre.
C'est l'un des chantiers du gouvernement. Comment rouvrir les écoles sans relancer la propagation du virus? Quelles précautions? Quelles méthodes? Certains maires, on le sait, sont opposés à une réouverture dès lundi prochain. C'est pour les rassurer qu'Emmanuel Macron se rend ce matin dans une école de Poissy dans les Yvelines. Accompagné du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ils feront le point sur les dispositifs à mettre en œuvre dans les établissements. Cette rentrée se fera très progressivement sur la base du volontariat pour les plus petites classes d'abord à partir du 11 mai prochain. Avec toutefois des disparités locales. À Paris, par exemple, aucun enfant ne sera accueilli avant le 14 mai, le temps de laisser les enseignants s'organiser. Paris, justement, où doit être annoncé le plan de déconfinement en début d'après-midi. Pour désengorger les transports, Anne Hidalgo entend réserver 50 km de voies aux vélos, des voies qui jusqu'à présent étaient réservées aux voitures, comme la rue de Rivoli, le boulevard Saint-Michel ou encore la Porte Maillot. C'est ce qu'annonce la maire de Paris dans le journal Le Parisien. La Poste rétablit progressivement son service partout en France. Les tournées du samedi qui avaient été suspendues vont peu à peu reprendre à partir de lundi prochain et tous les bureaux de poste devraient rouvrir d'ici la fin du mois de mai. Sur le plan sanitaire, la France a dépassé hier les 25 000 morts. Le nombre de patients en réanimation, en revanche, est toujours en baisse. À l'étranger, les États-Unis, eux, pourraient passer la barre des 100 000 victimes au mois de juin. Prévisions alarmistes des épidémiologistes américains qui ne prévoient pas d'arrêt des contagions pendant l'été. Plus proche de nous, l'Espagne enregistre une forte hausse du nombre de chômeurs, plus de 280 000 chômeurs supplémentaires au mois d'avril, principalement dans le secteur du tourisme. Les aides publiques dans le pays ont flambé, plus 137% au mois d'avril. Elles atteignent un niveau record dans le pays. La bourse de Paris a ouvert en hausse, plus 1,77%. Le CAC se rapproche de la barre des 4500 points. Nous avons la volonté que les salles de cinéma rouvrent. Déclaration de Franck Riester ce matin sur Europe 1. Le ministre de la Culture promet une protection sur le temps long pour les intermittents. Il ne parle pas toutefois d'année blanche pour le statut, comme le réclament les professionnels du secteur. Sur toutes ces questions sur le monde de la culture, des décisions devraient être annoncées dans la journée de demain. 10h02 sur Europe 1, c'est l'heure de répondre aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. C'est Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, qui est avec nous ce matin. Bonjour Mélanie.
Bonjour Marguerite, bonjour tout le monde.
Question de René qui habite à Lille. Ma femme et moi avons eu le Covid il y a un mois, nous nous en sommes bien tirés. Pourquoi est-ce que les gens guéris comme nous ne sont-ils pas autorisés à circuler librement?
Alors effectivement, hein, même si vous avez déjà eu le Covid, vous n'êtes pas autorisé à circuler, c'est toujours la règle, en tout cas pas plus que les autres. Alors d'ailleurs, ça devrait rester comme ça, hein, pas de différence entre ceux qui ont eu la maladie et les autres, car que ce soit du côté du comité scientifique du gouvernement ou même de l'OMS, tous ces experts ne sont pas en faveur de la délivrance à ce jour d'une sorte de passeport d'immunité. Tout simplement parce que la question de l'immunité apportée par la maladie n'est pas tout à fait tranchée. On estime qu'il n'y a pas pour le moment de certitude que cela rende l'individu immunisé contre la maladie, en tout cas sur le long terme. Donc je suis désolée, je ne crois pas qu'il sera mis en place de dérogation ni avant ni après le 11 mai, même pour ceux qui ont déjà guéri de la maladie.
Merci beaucoup Mélanie Gomez, que l'on retrouvera toute la journée pour répondre à vos questions, celles que vous nous posez sur les réseaux sociaux via le hashtag Radio Ouverte ou bien par téléphone, c'est au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Je vous rappelle que l'intégralité du coût de cet appel sera reversée à l'Institut Pasteur.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre et merci à Mélanie Gomez. On vous retrouve tout à l'heure à 11h.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec le tennisman quadruple médaillé paralympique Mickaël Jérémiaz et l'animateur Frédéric Lopez pour l'émission Comme les autres. Vous allez comprendre que ce n'est pas comme les autres, cette émission. Et puis, il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, puis le chanteur, que dis-je, le phénomène Bilal Hassani, nos indispensables de jeux vidéo et de la bande dessinée.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Frédéric Lopez.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Mickaël Jérémiaz.
Bonjour Philippe.
Frédéric Lopez, vous êtes animateur emblématique de France 2, faut-il vous présenter? Vous avez créé Rendez-vous Inter Inconnu, émission dont vous avez abandonné cette saison la présentation. Et ce soir, sur France 2, à 21h, je l'ai dit, vous présentez une émission d'un genre nouveau, ça s'appelle Comme les autres. Pour comprendre le concept de l'émission, Frédéric Lopez, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Mickaël Jérémiaz? Parce que le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas comme les autres, tout en étant comme les autres.
Alors ce que je peux dire, c'est que ceux qui ne le connaissent pas encore vont se souvenir de lui pendant très longtemps, et ceux qui l'ont déjà croisé évidemment savent qu'il est assez unique. Donc Mickaël, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un grand champion, c'est le numéro un mondial en tennis en fauteuil. Voilà, il était porte-drapeau des derniers Paralympiques, l'équipe de France, et voilà, il a une association qui s'appelle Comme les autres. Il va vous expliquer l'objet de l'association, et m'a demandé d'être le parrain de cette association. Mais si j'ai accepté d'être le parrain, il fallait que je parte dans un séjour à sensations fortes qui mélangeait deux populations, 5 personnes valides et 5 personnes en fauteuil, et j'imaginais pas du tout ce que j'allais vivre.
Alors, je vais le dire, vous êtes sur un fauteuil, Mickaël, vous avez une femme que vous aimez, que vous avez rencontrée après votre accident, vous avez eu un enfant avec elle, c'est un cas très très rare. C'est quoi le but de votre association Comme les autres, Mickaël Jérémiaz?
Bah, Comme les autres, se propose un accompagnement social dynamisé par le sport et les sensations fortes, Frédéric en parlait, et c'est destiné à des personnes devenues handicapées à la suite d'un accident, et principalement des blessés à la moelle épinière, donc des paraplégiques, des tétraplégiques. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi j'ai rencontré ma femme après mon accident, ce qui est fréquent,
ce que vous dites,
il y a plein de personnes handicapées qui ont la chance de rencontrer des hommes ou des femmes après leur accident et d'avoir une vie amoureuse. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, et effectivement, c'est pas toujours le cas, parce que ça peut faire partie des complications quand vous êtes accidenté pour les problèmes de procréation. Mais voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus.
Et vous le dites même, parfois il y a beaucoup de séparations, malheureusement. Frédéric, c'est quoi le principe de l'émission de ce soir? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Vous dites que cela a été une des expériences les plus fortes de votre vie. Moi, j'ai vu l'émission, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, qu'est-ce qu'ils vont découvrir?
Alors moi j'ai besoin de vous demander, puisque vous l'avez vu et c'est toujours plus fort dans votre bouche, au-delà de ce que, voilà, je vais expliquer le principe, mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti et
ça vous a plu? Je vous le dirai après. Moi déjà j'aimerais savoir après comment vous avez choisi les personnes handicapées, d'où viennent-elles?
Il y a un truc très important, effectivement.
J'ai pas bien compris pourquoi, mais je trouve ça très intéressant. Pourquoi personne ne se connaissait avant l'émission?
Alors voilà, c'est pas un concept de télévision. Faut savoir qu'en fait, depuis 9 ans maintenant, l'association de Mickaël organise une vingtaine de séjours par an pour, encore une fois, ces deux populations, les personnes en fauteuil et les personnes valides. Et en fait, en vérité, moi j'ai dû lâcher prise, parce que c'est pas une émission de télévision. Les gens n'ont pas été choisis ni castés. En fait, c'est l'association qui les a choisis pour ce séjour et qui a dit, est-ce que vous accepteriez que ça soit filmé? Et ils vont d'ailleurs découvrir pour la plupart d'entre eux le film ce soir en même temps que les téléspectateurs. Et donc en fait, je me suis laissé porter comme les autres, et c'est lui qui a pris la main. C'est Mickaël. Au fond, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, ni ce que j'allais faire, et donc les rôles se sont inversés, et moi qui suis dans le contrôle d'habitude, je peux vous dire que c'était un lâcher prise assez vertigineux, pour tout vous dire.
Frédéric, à un moment donné, vous êtes dans une discussion à bâton rompu, vous êtes avec un petit groupe, il y a deux garçons qui sont là, une fille, tous les trois sont sur un fauteuil, et ils se racontent.
Moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de me planter, j'étais jeune, j'étais dynamique et sportif, et je sais que ça m'a aidé, quoi. Si j'avais pas été comme ça, j'aurais eu plus de difficultés, quoi, c'est sûr.
T'avais quel âge?
17, j'allais avoir 18. Donc quoi, c'est vraiment propre à chacun, quoi.
Et t'as dit le mot chance. Ouais. C'est marrant, je vous ai tous entendu dire, moi j'ai la chance de...
Ouais. Bah ouais.
Vous avez toujours la sensation que vous avez de la chance par rapport à...
À partir du moment déjà où tu peux être autonome, t'as de la chance. À partir du moment où t'es pas dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, putain, t'as une putain de chance. Enfin, moi je le vois comme ça. Hein.
Ah ouais, je suis d'accord.
Alors, vous me posiez une question, je vais y répondre. Quand on voit l'émission, c'est une formidable leçon de vie. Il y a certains qui racontent qu'ils ne pensaient jamais pouvoir bouger les bras ou les mains. D'autres qu'ils sont restés un an sans pouvoir parler. Ça donne une patate pas possible. Dès le deuxième jour, ils ont fait du jet ski. C'était les handicapés qui pilotaient, pas comme passagers. À un moment donné, il y a une fille qui est tombée à l'eau. Vous avez eu peur, Mickaël ?
Non, pas du tout. C'est Catel qui tombe à l'eau. C'est la casse-cou du groupe. Non, parce qu'on sait qu'on fait ça en sécurité. Et puis le jet ski, même si ça peut être une activité dangereuse, bon, bah, heureusement, c'est sur l'eau. Donc, elle tombe dans un virage parce qu'elle va trop vite. Et puis elle remonte.
Parce que nous, en tant que téléspectateurs, on a peur pour elle. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer?
Mais justement, c'est aussi ce qui se passe dans le film, c'est que vous allez découvrir des choses que dont vous n'avez pas l'habitude de voir et qui des fois peuvent vous mettre mal à l'aise, qui des fois vous font vous poser des questions. Et en réalité, tout de suite, vous êtes rassuré. Tout de suite, on vous explique. C'est un film qui est aussi très pédagogue, c'est-à-dire que on a beaucoup d'a priori, on a beaucoup de peur face au handicap, et en fait, ça répond à toutes les questions. Ouais. Et pour revenir sur l'extrait que vous venez de diffuser, en fait, c'est ça qui est super intéressant. Moi, quand j'ai eu mon accident il y a 20 ans, au bout d'un mois, je sors de l'hôpital, je vais en centre de rééducation. Moi, j'étais paraplégique et je pensais que c'était la fin du monde. Et au bout d'une semaine en centre de rééducation, on me met avec une personne tétraplégique, c'est-à-dire une personne paralysée des membres inférieurs et supérieurs, qui n'était pas autonome, qui ne pouvait pas faire grand-chose toute seule. Et en 24 heures, avec lui, j'ai déjà commencé à relativiser sur le fait que j'avais de la chance et j'étais un privilégié. C'est ce que eux disent aussi, et pourtant, ayant une pathologie plus finalement grave que la mienne. Donc il y a toujours de quoi un moment relativiser, prendre du recul par rapport à votre existence.
Il y a une séquence incroyable, vous apprenez aux handicapés comment se tenir à la verticale avec seulement deux roues sur un fauteuil. Je vous dis que ça, l'ambition de l'émission, c'est changer le regard. Et notamment, vous parlez de ça, vous parlez de notre regard à nous de gens valides. Il y a Céline qui dit, j'ai pas besoin qu'on m'aide, mon fauteuil a pas de poignée, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et c'est la question qu'on se pose tous, comment faut-il se comporter lorsqu'on est valide?
Bah en fait, okay. on a toujours essayé d'imaginer si on pouvait pas proposer un guide des bonnes pratiques de comment se comporter avec des personnes en fauteuil. Et en fait, c'est un peu casse-gueule parce qu'il n'y a pas de règles définies de comment on voudrait tous que les gens se comportent avec nous. Par contre, il y a des interdits.
Allez-y.
Il y a des choses qui ne se font pas. Bah en fait, on n'est pas des caddies. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous pousse pas si on ne nous a pas proposé de l'aide et si on ne nous l'a pas demandé auparavant. Comme ça m'est arrivé, moi, des dizaines de fois dans des supermarchés, dans une file d'attente, des gens qui voudraient pas vous, qui ont peur de vous déranger et qui vous poussent.
C'est
et en même
vrai.
Temps, quand vous rencontrez quelqu'un à une caisse du supermarché, une personne en fauteuil qui fait ses courses comme tout le monde, si vous arrivez à une caisse du supermarché, bon, à part si on vous reconnaît, on va vous dire bonjour, vous allez, et puis ensuite, on va vous donner le prix, vous allez payer, vous allez dire merci, bonne journée. Nous, on va vous regarder. Ah, mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ouais.
Avant même de juste vous dire bonjour, qu'est-ce que vous avez? Bah, je sais pas, il m'a pris l'idée de faire des courses ce matin. Et là, la personne, évidemment, elle me regardait un peu gênée, mais sauf qu'en l'occurrence, elle veut juste savoir pourquoi je suis en fauteuil roulant.
Mmh.
Et c'est ce que Frédéric aussi a découvert, et à travers les témoignages des participants, c'est que vous demandez à des gens, avant même de faire connaissance avec eux, de revivre leur drame, parce que pour la plupart, et quasi pour la plupart, pour tout le monde, ça a été un drame, que ce soit une maladie ou un accident, et vous leur demandez comme ça, de but en blanc, sans préliminaire, de raconter à nouveau ce drame-là. Et ça peut arriver 10, 15 fois dans une journée.
Ouais.
Donc il y a effectivement un certain nombre de comportements à ne pas avoir, mais en fait, l'idée c'est de banaliser la différence, c'est-à-dire qu'une personne en fauteuil roulant dans notre société peut avoir accès, de manière normale, comme les autres, à la citoyenneté, à la société, et sans qu'à chaque fois on lui pose des questions qui sont embarrassantes, qu'on lui demande des choses qu'on ne devrait pas lui demander, qu'on ne ferait pas finalement avec d'autres personnes.
Exactement.
D'avoir un comportement finalement assez naturel.
Exactement. Michael Jérémias, vous parliez de préliminaires et je réalise qu'on n'a même pas parlé de sexe. Vous restez avec nous, Frédéric Lopez. C'est l'émission Comme les autres. On en parle dans quelques instants. Je savais que ça vous plairait ce programme dans Culture Média. Tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Comme les autres, c'est ce soir à 21h sur France 2 et c'est une émission vraiment pas comme les autres avec Frédéric Lopez et Michael Jérémias qui sont nos invités. Vous allez en Corse, vous êtes une dizaine, 5 valides et 5 personnes sur des fauteuils, vous rencontrez, faire des activités qu'on va détailler, vous parlez de vos problèmes et de ce qui n'est pas un problème, vous avez abordé tous les sujets, en tout cas beaucoup, y compris le sexe, et pendant le dîner, vous avez fait un barbecue, les filles parlent ouvertement de leur vie sexuelle, et contrairement aux idées reçues, cette vie sexuelle ne s'arrête pas avec le handicap, la preuve est qu'Atel, elle a 46 ans.
Pour te dire, ma première fois avec quelqu'un d'autre, ça a été génial. C'était pleine lune, des étoiles de partout. On était en bord de mer et waouh. Et ça m'a donné vachement confiance en moi. Mais je vais pas brancher les mecs en fait. Enfin, ça se passe comme ça et puis ça se passe bien. Quoi. Enfin, je veux dire, ça me pose pas de problème particulier. Même si évidemment c'est différent, même si évidemment je leur fais un petit briefing avant, je leur dis bah voilà.
Ouais, mais voilà, c'est ça. Tu vois.
Message d'espoir au sujet de la sexualité. Les garçons, vous faites parler les filles, mais vous ne faites pas parler les mecs, en tout cas au montage. Pour quelle raison? Est-ce que c'est indécent d'en parler ou alors est-ce qu'il y a un non-dit sur le sujet, un tabou? La sexualité n'est pas la même car parfois, malheureusement, il faut le dire, le handicap peut interdire l'érection. Pour quelle raison les types, les garçons ne parlent pas de sexualité, seulement les filles dans le documentaire?
En fait, Michael, je te laisse répondre.
Non, mais c'est pas un problème de montage, c'est qu'en fait, l'extrait que vous prenez, c'est le soir où on a parlé de sexualité, c'est venu par hasard. C'est Maïlys qui a lancé la discussion.
C'est un très bon sujet.
Poser des questions.
Mais j'aurais bien aimé entendre les garçons.
Oui, ben non, mais sauf qu'en fait, les garçons, à ce moment-là, se manifestent s'ils ont quelque chose à exprimer. On ne les interviewe pas. Hein. C'est un ouais. séjour où les gens partagent des moments ensemble. On n'est pas là pour aller traquer quoi que ce soit. La réalité, effectivement, c'est que la question de la sexualité, quand vous êtes un homme ou une femme paraplégique ou tétraplégique, est un enjeu que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, oui, il peut y avoir des conséquences. Vous parliez de soucis d'érection pour les hommes. Ça peut être une des conséquences pour les paraplégiques et tétraplégiques, mais pour lesquels il y a des solutions. Pour les femmes aussi, la question du rapport au corps, la question du rapport au toucher, la question des positions, ce que raconte Catel avec humour, qu'elle fait un petit briefing avant. Évidemment qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent différer, mais au final, une personne handicapée a le droit à la sexualité, a le droit à l'amour, a le droit à la séduction, a le droit au plan cul, a droit à tout ça. Et voilà, et c'est ce que ça raconte. Et en fait, ce qui se passe, quand vous venez avoir un accident, vous avez besoin d'être rassuré. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir, sur tous les séjours qu'on organise, une personne handicapée qui s'est réalisée dans sa vie de personne handicapée. C'est moi qui joue finalement ce rôle-là. C'est de celui un peu on appelle ça la permulation. Moi, c'est d'expliquer en fait que je connais ces étapes-là puisque je les ai vécues avant vous. Donc, je vais vous raconter ma vie, celle de tous les gens que j'ai rencontrés. Et voilà. Et donc, en fait, on les rassure et on leur fait gagner un temps précieux dans leur reconstruction.
Frédéric Lopez, vous étiez simplement le passager de cette émission. Vous avez participé au montage, à la production. Est-ce que vous avez accès pour dire les choses différemment? Est-ce que vous avez accès au montage, par exemple?
Alors effectivement, j'ai laissé faire David Perret, le réalisateur, et puis Fanny Guernorel, qui a écrit le film et qui avait même été faire un séjour avant. Les réunions à France 2 ont eu lieu sans moi, c'était terrible, et j'ai assisté à un premier montage. Après, ce qui s'est passé, c'est que je suis intervenu sur le début du film, parce que rendre attachant 12 personnes d'un seul coup, c'est pas facile, et donc effectivement, ça demande des petits ajustements. Mais moi, j'ai découvert le film un peu comme voilà ce que David avait envie de raconter de ce que j'ai vécu, et moi j'étais un messager, un passager, comme vous dites. C'est-à-dire qu'au fond, de vous entendre parler avec Mickaël, là ce matin, moi, c'est ma grande victoire. C'est-à-dire que Mickaël, il n'a aucun tabou, il dédramatise tout, il fait beaucoup, beaucoup d'humour. Et donc, en fait, ça permet de mettre à l'aise. C'est-à-dire moi, j'étais intimidé, j'avais peur de dire des bêtises ou de blesser, etc. J'avais peur peut-être même de voir de la souffrance et de me sentir impuissant. Ça n'est jamais arrivé. Et j'ai vraiment besoin de dire aux auditeurs qui se disent, oulala, ça, c'est pas pour moi. Moi, ça me met à l'aise. Et bien que s'ils regardent le film ce soir, vraiment, ils feront partie de ceux qui ne détournent pas le regard et qui ne détourneront plus jamais le regard. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Je pense qu'il y aura un avant, un après pour ceux qui regarderont le film ce soir. Et puis je sais qu'il y a Harry Potter sur TF1. Nous aussi, on vole dans le film, je peux vous le dire. Mais ça, c'est une surprise.
Ils meurent tous à la fin. Ils meurent tous à la fin ce soir.
Mais non, il ne faut pas spoiler Harry Potter. Moi, je vais spoiler la fin. Personne ne meurt. Frédéric, on vous voit avec des handicapés qui racontent la manière dont ils perçoivent leur handicap, la manière dont ce handicap affecte leur famille. C'est parfois très douloureux. Et l'un d'entre eux vous demande ce que vous en pensez. Et là, Frédéric Lopez, vous parlez de votre fils qui a 23 ans, qui est valide. Et à ce moment, pourtant, vous êtes au bord des larmes. Pour quelle raison?
Je le raconte ou on entend? Je le raconte?
Ouais. Pourquoi vous êtes au bord des larmes?
C'est Quentin qui a 27 ans aujourd'hui qui raconte son accident quand il avait 17 ans. Il explique en fait de manière très très belle et très pudique qu'en fait c'était évidemment douloureux de se retrouver dans une nouvelle situation. Il y avait beaucoup d'inconnus, le regard des autres. Mais ce qui a été difficile pour lui, c'est parfois de vivre aussi la descente aux enfers de gens très proches, parce que forcément c'est quelque chose de très dur pour eux aussi. Et ça m'a envoyé un message, une leçon de vie incroyable. C'est que j'ai réalisé qu'en fait, si ça arrive à mon fils, s'il arrive quelque chose comme ça aux gens proches et même une maladie, en fait notre devoir c'est d'aller bien pour pas que ce soit une double peine pour eux. Et ça, c'était juste, il avait rien à me transmettre, il l'a raconté comme ça, et ça a été bouleversant parce que j'ai réalisé en fait qu'effectivement on se demande comment faire quand quelqu'un traverse quelque chose de difficile, et une manière de soutenir, c'est d'aller bien, c'est ce qu'il nous a raconté hier soir en fait, voilà, ce soir, ça passe, pardon, j'ai dans la tête depuis septembre, et j'ai revu hier soir, mais ça passe ce soir pour tout le monde.
Exactement, ce soir, alors Mickaël Jérémy, allez-y.
Ouais. Non, c'est un sujet extrêmement fort. Moi, j'étais pas là pendant cette discussion, puisque c'est ça qui est très fort dans le film, c'est qu'en fait, les équipes étaient là, et puis nous, on vit notre vie. Et c'est une captation de ce qu'on a vécu pendant une semaine. Et en fait, moi, j'ai découvert ça en visionnant le film, évidemment. Et donc, en fait, cette séquence, elle est très forte, parce que c'est ce que dit Fred, c'est que c'est la double peine. C'est-à-dire que nous, on doit gérer notre souffrance, et qui dure ce qu'elle dure. Des fois, elle dure une vie, des fois, elle dure un an, trois ans, cinq ans, l'acceptation du handicap. Mais aussi, on doit aussi gérer la souffrance de nos proches. Et là, pour le coup, on n'a pas la main là-dessus. Et donc, en fait, on se doit de rendre finalement, et de renvoyer à nos proches une image finalement qui est peut-être pas celle qu'on vit, pour les protéger. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est l'accompagnement. Moi, je les appelle pas les aidants, je les appelle les aimants. C'est l'accompagnement des aimants et d'être là. Et c'est ce que nous aussi, on commence à proposer avec l'association comme les autres, c'est d'aider et d'accompagner les personnes qui souffrent aussi, c'est-à-dire toutes les personnes qui aimaient la personne accidentée. Ouais. Et donc ça peut faire des fois beaucoup de monde. Donc c'est un vrai enjeu aussi.
L'émission est très feel good, politiquement correcte. En revanche, ça m'a amusé. À part la plongée sous-marine, il y a 4 grandes expériences ressenties par les gens sur un fauteuil. Ils font du jet ski, du quad, du deltaplane à moteur, ensuite carrément de l'hélico. Et je me dis, les gars, vous avez un très très mauvais bilan carbone. Vous allez vous faire détester par les écolos. Blague alors, à part.
Michael.
Vous voulez dire quelque chose, Michael, là-dessus?
Michael, de Greta, il peut expliquer pourquoi quand même. Il peut expliquer pourquoi ce sont des.
Oui, sports, bah, bien sûr. Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez un accident de la vie, que vous retrouvez un fauteuil roulant, il y a un certain nombre d'horizons qui se ferment, d'environnements qui se
bien
ferment,
sûr.
D'accès qui ne sont plus, qui ne sont plus abordables en fauteuil roulant. Quand on se retrouve à se balader en Corse, c'est qu'on est sur des quads. Effectivement, ce sont pas des quads électriques. S'il y avait des quads électriques, on les aurait évidemment utilisés. C'est qu'en fait, cet environnement-là, si vous avez envie d'aller vous balader à pied, d'aller faire une grande randonnée, vous pouvez le faire. Nous, on peut pas. C'est-à-dire qu'il y a des environnements qui deviennent de fait inaccessibles. La société globalement, elle est inaccessible. Personne en fauteuil roulant, et pas que dans des chemins corses, hein, mais même en pleine ville et en pleine capitale parisienne. Et donc la réalité, c'est que pour aller justement explorer, il faut utiliser des engins comme ça. Et puis aussi, un des enjeux, c'est de dynamiser des personnes qui se retrouvent en centre d'éducation, qui viennent d'en sortir, où on leur a dit qu'ils ne pourront plus faire un certain nombre de choses, où on leur dit qu'il y a des obstacles un peu partout. Et quand vous êtes capable de vous jeter d'un avion pour faire du saut en parachute, de faire du jet ski, de faire de la plongée, de sortir finalement d'une zone de confort et d'aller faire des choses qui créent de l'adrénaline, et grâce aussi malheureusement souvent à des produits polluants ou des outils polluants, ça permet aussi de recommencer ce parcours-là de reconstruction dynamique et qui va à un moment le faire que on n'a plus peur de monter ou de descendre un trottoir et de s'aventurer dans la cité.
Exactement. Frédéric Lopez, on va parler de télévision d'un mot. Vous avez abandonné la présentation de Rendez-vous en Terre Inconnue. Vous avez dit que vous ne vouliez plus faire d'antenne. Et puis, selon Le Parisien d'hier, vous allez présenter lundi un nouveau projet à France Télé. De quoi s'agit-il ? Un magazine engagé, dit-il.
Oui, en fait, vous savez qu'avec la période qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans les comportements. Tout le monde se demande à quoi va ressembler le monde d'après. Et j'ai l'impression que tout le monde a envie de la même chose. Tout le monde rêve d'un monde plus juste, plus solidaire, avec le respect du vivant, du règne animal, de la terre. Sauf qu'il y en a qui y croient et il y en a qui n'y croient pas. Ouais. Et comme disent les acteurs du changement, j'ai un ami qui s'appelle Mathieu Baudin qui a créé l'Institut des Futurs Souhaitables. Il dit, ceux qui pensent que ça n'est pas possible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Et moi, j'ai envie d'accompagner les gens qui se lancent dans l'action depuis un petit moment maintenant, qui sont les acteurs du changement, qui font bouger les lignes. Et ça s'appelle du journalisme d'impact. Et je pense que c'est contagieux, qu'on peut faire du call to action, comme disent les anglo-saxons, et que la télévision peut permettre de montrer des solutions locales et de faire ce qu'on appelle une mise à l'échelle. Donc oui, je pense que la télévision peut devenir citoyenne. Et voilà, je vais présenter ce projet à France Télévisions. Je serais très, très fier si le service public se lançait là-dedans. J'en avais parlé un petit peu à la présidente Delphine Arnaud. Elle était assez emballée par l'idée. Donc voilà, c'est pas signé. J'espère que ce sera fait. Mais je serais très, très, très heureux de pouvoir être aux côtés de ceux qui veulent changer le monde. Aujourd'hui, qui sont dans l'action, qui ont choisi d'être acteurs et pas témoins.
Si vous voulez dire quelque chose en attendant lundi, profitez-en parce que très souvent, les gens de France 2 et de toutes les chaînes d'ailleurs écoutent Culture Média. Vous voulez dire quelque chose à Delphine Ernotte, allez-y, il reste 30 secondes.
Delphine Ardant, je l'aime beaucoup. Je trouve que le service public s'est très très bien débrouillé pendant cette période-là. Franchement, on a trouvé notre place dans la société et je pense qu'on a tout intérêt à accompagner ceux qui y croient parce que sinon ils sont dans l'angle mort effectivement des médias.
Vous serez à l'antenne
Oui ou non. Si jamais ça fait partie de l'engagement, si c'est être à la hauteur, et si la chaîne considère, parce que moi j'ai
non mais d'un mot, il me reste 30 secondes, même pas. Vous serez à l'antenne, oui ou non.
Si le faire, j'irai, parce que j'ai besoin, si la chaîne dit ok, j'irai.
Le gars qui avait promis qu'il ferait plus jamais d'antenne, merci, d'un mot, il me reste 5 secondes.
Eh ben 5 secondes, si vous voulez soutenir l'association, parce que c'est quand même très important, vous pouvez faire un don sur le site commeslesautres.org.
Ça, c'est des vrais 5 secondes. Prends-en de la graine, Frédéric Lopez. Merci beaucoup, Michael Jérémias. Merci, Frédéric Lopez. Je rappelle, Comme les autres, c'est ce soir à 21h sur France 2. Merci d'avoir été avec nous, les garçons, en direct. On va...